Vous écoutez le podcast Il était 4 fois, l'entrée des coulisses. Un podcast produit par l'association La Danse des mots, théâtre et compagnie. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe en coulisses et les secrets d'artistes, vous êtes au bon endroit. À travers les expériences de notre petite troupe, nous allons vous raconter presque tout ce qui se passe avant la scène et aussi donner la parole à des artistes de tout horizon. Je suis Isabelle de La Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue donc dans l'épisode inédit de cette première saison. Mais avant tout, un grand, grand merci à vous qui nous suivez. Cela nous fait très plaisir. Un podcast est fait pour être écouté et le nôtre ne demande qu'à grandir grâce à vous. Un épisode inédit donc, où nous allons retrouver les invités des précédents épisodes. Ils partagent avec nous un concert, un spectacle qui les a marqués. Et cette fois-ci, bah, c'est moi qui m'y colle. Ouais, moi aussi, j'ai un souvenir très très marquant d'un spectacle dans lequel je jouais seule en scène. Et ce spectacle, c'était Pink d'Amour et de Rose. Et il y a eu un moment très précis que je garde en mémoire et que j'ai revécu encore après d'une manière un peu différente. Mais je vous raconte ça. Si je dois évoquer un moment marquant dans mon parcours modeste d'artiste, je dirais que c'est le 14 février 2018 à l'Espace Vasarely d'Antony. C'est pour la première représentation officielle de mon spectacle en solo, Pink d'Amour et de Rose. Alors en 2016, j'ai déjà présenté un embryon de ce spectacle dans la salle de répétition, devant quelques invités. Et le but était vraiment de confronter mes premières recherches à un premier public. Parce que j'estime que si on veut dépasser un stade de travail purement amateur, il faut être capable de confronter sa création au regard extérieur. En tant qu'artiste amateur, on peut bien sûr affirmer « voilà, je suis une artiste, je fais ce que je veux, c'est ça que je veux montrer ». D'accord, mais encore faut-il que cette création ait du sens. Et encore faut-il que cette création ne fasse pas trop gratouille égo. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, dévoiler des étapes de création permet de corriger la trajectoire ou au contraire, de l'affirmer plus fortement, mais en sachant pourquoi. Je présente donc un embryon du spectacle Pink d'Amour et de Rose, et je n'ai absolument pas peur. C'est comme un jeu, c'est comme si c'était du pas sérieux. Et donc, la représentation se passe. En 2017, je représente pour la seconde fois dans la même salle de répétition une version beaucoup plus aboutie, presque définitive, devant 15 personnes très éclectiques que j'ai choisies, qui sont à la fois des artistes, des spectateurs parfaitement lambda et des amis. Et là, par contre, c'est moins du jeu. Je me sens beaucoup plus tendue. Et je réalise beaucoup plus tard que c'était quand même très audacieux d'évoluer littéralement à 1 mètre des spectateurs, sans jeu de lumière, accru, en pleurant, en me roulant par terre, enfin bref. Mais ce jour-là, j'ai vu que les personnes étaient touchées. Et donc ça m'a beaucoup rassurée sur la suite de la création. Et arrive donc le vrai moment marquant. Donc c'est le soir de la Saint-Valentin 2018. J'ai absolument voulu que ce soit cette date pour lancer ce spectacle qui parle d'amour. On a fait toute une promotion autour du spectacle, on a lancé des invitations, dont la moitié des personnes absolument inconnues. Et donc après une après-midi de réglages techniques, près des répétitions artistiques, je suis donc prête, je suis crevée, mais je suis prête, et j'attends le début du spectacle. Là, je suis assise dans le noir, derrière le rideau, en costume, et je suis prise d'une panique atroce. C'est la première fois que ce spectacle que j'ai travaillé durant 4 ans va se concrétiser, va trouver sa scène, et je suis toute seule. Je vais être toute seule sur scène. Et là, je me dis, mais pourquoi je m'impose un truc pareil? Et puis je me dis aussi que, ben voilà, est-ce que c'est pas un peu prétentieux? Est-ce que je suis pas quand même une prétentieuse de me présenter comme ça devant les gens, sur un spectacle où je me suis permise de tout faire, les vidéos, les chorégraphies, les textes? Est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce que je vais pas oublier? Est-ce que je vais pas me tromper? Et puis si ça leur plaît pas, et si je joue face à un public complètement froid ou qui décroche, enfin bref, c'est la panique la plus totale. Et pendant ce temps-là, moi j'entends le public papoter, s'installer, les chaises qui se déplacent, qui s'ajustent, les toussotements, les gens qui se saluent. Et moi je suis derrière mon rideau et j'ai très peur. Donc au bout d'un moment, je décide d'appliquer des techniques de respiration, de méditation et petit à petit de rentrer dans l'état émotionnel du personnage que j'ai imaginé. Et le spectacle commence et tout se passe très bien. J'ai eu des très beaux applaudissements, j'ai eu quelques personnes qui ont pris le temps de venir me saluer à la fin. Dans les coulisses, j'ai mon mari qui est venu me voir avec des larmes dans les yeux. J'ai les 3 amis de la compagnie qui avaient l'air plutôt émus aussi. Et moi, je dois avouer que j'étais très fière. J'étais fière pour la petite fille qui s'amusait à faire des spectacles dans sa chambre. Voilà. J'ai eu une très forte pensée pour elle. J'ai vraiment pensé à elle ce soir-là. Par la suite, j'ai eu d'autres représentations de ce spectacle solo, Pink d'amour et de rose, des représentations qui ont été marquantes pour différentes raisons. C'est un spectacle qui m'a touchée d'une manière personnelle, intime, qui m'a bousculée en bien, parce qu'il y a eu des choses très valorisantes, qui m'a bousculée en mal, puisque j'ai vécu certains détails d'une manière très douloureuse. Ça m'a touchée aussi, je pense, d'une manière artistique, parce que, très modestement, hein, je pense qu'on voit un petit peu à travers ce spectacle ma conception du spectacle, d'une manière personnelle, c'est-à-dire que j'y ai mélangé de la danse, de la langue des signes, de la vidéo, de l'interprétation, et que je me suis impliquée dans chaque étape de création, quitte à ce que ce soit certainement moins maîtrisé, mais plus humain, en fait. Voilà. J'ai ressenti très, très fortement ce moment quand j'étais derrière le rideau pour la toute première représentation de Pink, d'amour et de rose, le soir du 14 février 2018 à l'espace Vasarely d'Antony. Allez, revenons à nos invités. Je vous propose de continuer avec le souvenir marquant de Noun. Noun est l'invité du 2e épisode de ce podcast. Et lui, il a vécu un moment dans une salle qui, pour lui, a été très particulière.
En fait, il faut savoir que le théâtre des temps, c'est un théâtre antique.
Oui.
Ça ressemble au théâtre du Châtelet.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un théâtre magnifique, c'est-à-dire qu'il y a tout en rond comme ça. Mais c'est vraiment antique, c'est vraiment ancien, quoi, tu vois.
Oui.
Et pour moi, c'était un beau souvenir parce que c'est des théâtres qui programment des spectacles comme Mozart, Shakespeare.
Oui.
Donc du coup...
Et oui, ça faisait plaisir d'être sur cette scène-là, quoi.
Donc ça, c'est un peu comme, tu vois, là, c'est ça, tel que je crée mon spectacle. Et ça rentre pour toi, dans ce théâtre mythique un peu. Ben, c'est vraiment quelque chose qui, quand même, qui m'a un peu touché parce que c'est pas donné, quoi, tu vois. C'est qu'on n'y rentre pas comme ça. Du coup, on est rentré. On a fait le plein, hein, printemps plein.
Super.
Donc, du coup, comme quoi, ça peut, d'autres univers peuvent aussi peut-être jouer dans ce genre de salles.
Eh oui.
C'était une belle expérience, quoi.
Merci beaucoup, Noun. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on a accès à une belle salle de spectacle. Je vous propose maintenant de retrouver l'invité de l'épisode 5. C'était Romain Lefrançois. Et Romain Lefrançois, lui, il va vous raconter plusieurs petites anecdotes qu'il a vécues pendant ses concerts. On l'écoute tout de suite.
J'ai quelques souvenirs comme ça. C'est plutôt des anecdotes parce qu'un concert, j'ai des beaux souvenirs de concert. Après, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge là-dessus parce que chaque concert est dit. Je pense pas avoir jamais fait deux concerts différents. Je pense deux concerts identiques parce que je refais les setlists à chaque fois parce que j'ai envie de faire de tester autre chose. Mais il y a toujours plein de petites anecdotes. Je me souviens d'un concert au théâtre du Point du Jour, je crois, à Paris. Et puis à la fin du concert, on n'a plus de son du tout. Alors là, avec le batteur, j'étais juste avec Laurent Baron à l'époque. On était en duo. On débranche tout, on finit, lui je crois qu'il prend juste des percussions et puis moi j'ai ma guitare et on va chanter vraiment dans le public. C'était pas du tout prévu, mais ça a été magique. Je me souviens de concerts aussi où je lui ai fait peur aussi à Laurent Baron parce qu'il m'a dit mais t'es complètement fou. À la fin de morceau, je sautais partout, je sautais par-dessus sa grosse caisse. Là pour le coup c'est rock'n'roll même si je fais de la chanson. Je me souviens d'un concert aussi à Bar-le-Duc avec Solex où c'est des fans, mes copines maintenant en fait, qui étaient déjà venues voir plusieurs concerts et là on jouait sur la grande place pendant l'été et elles m'ont fait la surprise de venir pendant une chanson parce qu'elles connaissaient les chansons par cœur, de venir déguiser dans les personnages de la chanson et on a chanté la chanson. Elles sont vraiment montées sur scène comme ça par derrière, elles m'ont vraiment pris au dépourvu et elles ont chanté avec, on a chanté ensemble la chanson. J'ai un beau souvenir de ça.
Alors, le coup des fans déguisés en personnages de chansons et qui montent sur scène, franchement, j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup, Romain Lefrançois. Alors, parfois, on vit des moments marquants, pas forcément en tant qu'artiste sur scène, mais en tant que simple spectateur. Et c'est ce que va nous raconter Tomislav, qui était l'invité, si je me souviens bien, de l'épisode 3 de ce podcast.
C'est un artiste que j'ai vu qu'une seule fois sur scène. C'était le concert de Tom Waits au Grand Rex en 1999 ou en 2000. Et c'était moi, c'est un artiste que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup. Je l'aurais vu qu'une seule fois en concert parce que je crois que maintenant il ne tourne absolument plus. Et c'était, il y avait tout ce que, en fait, il y a tout ce que j'aimerais pouvoir donner en concert, c'est-à-dire à la fois d'énergie, de l'humour, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie et du coup, beaucoup d'émotions. Donc, Tom Waits, il est drôle, il est émouvant et il est... mais vraiment, tout ça, c'est poussé vraiment très, très loin. Et il est extrêmement poétique. Je me souviens de... Il y a trois choses dont je me souviens. Il avait à ses pieds une espèce de petite estrade recouverte de sable. Et donc, il tapait dessus avec ses bottes et ça soulevait des gerbes de sable. Et puis, c'était très, très beau avec les éclaireurs. Quand il a présenté ses musiciens, il avait des paillettes dans les poches, mais des paillettes, des petits cotillons, en fait, des paillettes en papier. Et puis, il jetait ça sur ses musiciens, même qu'il les présentait comme si c'était une espèce de troupe de cirque. C'était très, très beau. Et il y a eu un moment donné, sur la fin du concert, où il avait un chapeau sur la tête tout le temps, puis il a enlevé le chapeau pour en mettre un autre sur lequel il y avait des petits éclats de mémoire. Et il y a eu une poursuite sur lui. Et il s'est mis à tourner sur lui-même, et tout, un peu à la manière d'une boule à facettes, tous les éclats, le miroir se reflétait sur toute la salle. Et c'était des effets spéciaux avec deux francs six sous, mais c'était magnifique. Et on avait vraiment l'impression d'être dans une salle de concert, d'être dans un endroit, d'être complètement ailleurs avec ce type qui nous recrée complètement l'espace, recrée complètement le temps. Et voilà, j'ai jamais été, je crois, autant transporté qu'au concert de Tom Waits. Vraiment, ça m'a marqué vraiment pour longtemps.
Eh ben, c'était tellement bien raconté que moi, j'avais l'impression de voir le concert aussi. Merci beaucoup, Tomislav. Je vous propose de continuer avec le souvenir de Constance Rakowski, qui était notre vedette de l'épisode numéro 4. Constance, qu'est-ce que tu vas nous raconter ?
C'était en deuxième année de théâtre où là enfin on a fait un spectacle de fin d'année parce qu'en première année on n'a pas le droit de faire, on ne peut pas faire de spectacle. Et donc c'est avec cette pièce écrite par un ancien élève du studio. Comme je venais du Nord, il voulait me faire parler ch'ti. Et donc j'ai dit oui, mais bon, dans le public, il n'y aura que ma famille qui sera là, qui comprendra peut-être. Il fait non, mais vas-y, tu me fais confiance, tu y vas. Et en plus, c'était particulier parce que je jouais un personnage où, en un paragraphe, je devais changer de personnalité un peu comme dans Split. D'ailleurs, je me suis inspirée de Split pour jouer parce que trois phrases différentes et je devais avoir trois attitudes et intonations différentes. Donc déjà, c'était un travail que j'aimais beaucoup. Et donc, ça a été magique, c'est que la magie a opéré, parce qu'on a fait deux dates. Donc, m'a failli forcément à rigoler, mais le public a été impressionné. Moi, du coup, ça a dépassé mes peurs, parce qu'à un moment, juste avant de jouer, j'ai dit, ouais, ça tombe, ça va être un bide, ça va être nul, je vais faire un gros flop. Et en fait, ça a été l'effet inverse. Et donc, déjà, le premier soir, ça a été magique. Et le deuxième soir, encore plus. Et ce qui m'a bouleversée, c'est que j'ai eu des super retours pour mon jeu. À l'époque, j'étais très blonde. Et donc, l'écho, c'était « Ah, elle jouait bien, la blonde, sur scène. » Et ce qui m'a touchée, c'était que c'était des personnes qui ne me connaissaient pas, qui me disent ça. Et en plus, c'était un peu, cadre professionnel par rapport à l'amateur, parce que c'était mon premier spectacle pro. Et j'ai eu des super retours aussi émouvants de mon directeur, du metteur en scène, en plus de ma famille, des gens vraiment qui me connaissaient pas. Et c'est là où je me suis dit, t'es crédible. Donc voilà, c'était pendant mon deuxième spectacle pendant le spectacle de deuxième année du studio Müller, où c'était très fort.
Et oui, Constance, et oui, c'est toujours tellement gratifiant de recevoir ce genre de retour, surtout quand on a été sincère, quand on a bien travaillé son rôle, ça fait toujours un immense, immense plaisir. Merci beaucoup, Constance. Je vous propose de continuer avec l'invité de l'épisode 6, Rom-Tom. Rom-Tom a peut-être eu un petit peu plus de mal à trouver quelques souvenirs de concerts marquants, mais il en a trouvé parce qu'il en a, bien sûr. On l'écoute.
J'en ai quand même au moins deux qui me viennent en tête là sur les concerts vraiment chouettes. Le premier, c'était le concert de sortie d'album aux Zèbres de Belleville. Donc ça, il y avait quelque chose de génial là-dedans parce que déjà la moitié de la salle était remplie par des contributeurs à l'album. Donc c'était vraiment un plaisir que de leur rendre en quelque sorte ce qu'ils m'avaient donné et puis tout le monde était content quoi. Enfin, c'est-à-dire que ayant participé à l'album, le fait de voir le concert de sortie d'album, on sentait le plaisir général. C'était pas que nous quoi. Enfin, il y avait quelque chose de collectif là-dedans quoi. Donc il y avait un échange de plaisir comme si on le faisait tous ensemble en fait quelque part ce truc. Et puis une salle comble et hyper bienveillante, c'est toujours génial quoi. Donc voilà, ça c'est un des deux que j'aimerais citer. Et un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était quand on a fait la première partie de Fris Maracas à Périgueux, parce que en fait on l'a fait avec une batucada locale. Et j'ai un rapport particulier avec le Brésil. Hein. Je parlais du fait que je faisais de la capoeira depuis longtemps, que j'enseignais tout ça. La batucada brésilienne, c'est aussi, ça fait partie des choses qui me plaisent beaucoup. C'était un groupe local et la première partie se faisait parce qu'il fallait qu'il y ait ce groupe local. Et donc le fait de le faire avec une batucada, on aurait pu le faire avec d'autres groupes, mais le fait de le faire avec une batucada, c'était génial. Nous, j'étais juste avec mon contrebassiste Julien Calcado. Et j'avais ma guitare et derrière nous il y avait 6 ou 7 batukistes on va dire qui étaient là et donc on est arrivé 2 jours avant sur place pour répéter les morceaux avec eux et le fait de faire ça sur scène avec toute la batouque derrière c'était génial et le public enfin ça, là aussi, il y a encore un truc où ça s'est hyper bien passé avec le public qui avait l'air de kiffer grave autant que nous. Donc, voilà, forcément, ça fait des souvenirs forts. En tout cas, c'était vraiment très chouette à faire. Et puis en plus, Oufris Maracas derrière, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Enfin bon, c'était vraiment une belle soirée, quoi. Voilà.
Que fais-je ta combe batoukade? Merci beaucoup, Rom-Tom, pour ce souvenir très rythmé et coloré. Et en écoutant tous ces artistes raconter leurs moments marquants, j'ai envie de poser la question à Guy Chouraki, qui fait partie de la danse des mots et qui est aussi le professeur de théâtre. Alors Guy, c'est quoi ton souvenir marquant?
Ouais, alors je peux dire que j'en ai vécu, mais plus j'y pense à cette question, plus je me dis qu'ils ont tous des points communs. En tout cas en ce qui me concerne. D'abord ceux que tout acteur ou actrice ressent avant d'entrer en scène, ou même encore avant, en répétition, quand on traverse justement des moments, mais de doute, des moments de crainte, de découragement, devant l'apprentissage du texte, de la mise en scène, qu'il faut s'accrocher, se mettre des œillères, et ne pas non plus trop se regarder le nombril en se disant « qu'est-ce que t'étais bien ?» Non, ça n'est pas à nous de juger, c'est au public. Donc je n'ai pas véritablement de moments précis, cocasses, anecdotiques à raconter. C'est plutôt des situations qui sont restées ancrées en moi. Alors si vous me demandez de choisir tel ou tel moment qui a jalonné ou jalonnera, j'espère encore, mon modeste parcours théâtral, je pense au jour où j'ai présenté en public, pour la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus, le long poème de Victor Hugo, intitulé Barabbas, extrait du recueil La fin de Satan. Je me trouvais alors dans les coulisses de la salle de spectacle d'un grand lycée parisien et j'étais complètement habité depuis des mois par ce texte. Je brûlais d'envie de le partager en milieu scolaire pour des élèves de première et terminale. Donc, me voilà dans les coulisses, prêt à m'immerger dans le texte. J'entendais arriver les classes entières de première et de terminale, accompagnées avec les profs. Et de la coulisse, j'entendais la rumeur qui s'amplifiait de minute en minute. Je savais que les élèves avaient été briefés par leurs profs, mais vous savez ce que c'est. Hein. Ils allaient passer une heure hors de la classe, à vivre autre chose cet après-midi que le cours lui-même. Bref, j'avais quand même des craintes. Ainsi, je crois que le moment qu'on me demande d'expliquer aujourd'hui, il est là. C'était la première fois que j'allais jouer devant des profs, des ados, et quand j'allais entrer, je me demandais comment ils allaient réagir, car de mes coulisses, j'entrevoyais déjà des sourires, ou des sourires moqueurs, ou peut-être même aussi des regards envieux, qui sait. Enfin, aucun silence donc, rien. C'était la rumeur, ça discutait pas mal, et puis j'ai fait lancer la musique d'introduction. Ça, c'est royal. Ça, je peux vous dire que c'est royal pour faire taire. Et la salle a été éteinte pour laisser place à la lumière de scène, et je suis entré sur cette scène et en musique. Et là, comme toujours, le temps s'est arrêté. Parce que comme je dis souvent, je crois qu'un des privilèges du théâtre, c'est de pouvoir remonter ou arrêter le temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je voudrais dire par rapport à ces moments marquants dans une carrière, si j'ose dire, d'amateur, même d'amateur théâtre, je crois qu'en réalité, pour moi, le grand moment, c'est la prise de décision. C'est quand on décide de mettre à exécution un projet théâtral, que vous arrêtez les dates, qu'il va falloir y aller, comme on dit. Bref, tous ces moments où, quand je parlais de points communs, c'est ça, c'est quand on prend la décision, que j'ai pris la décision, que j'ai osé me présenter, j'ai écrit pour proposer, en argumentant du mieux que je pouvais, l'opportunité de ce spectacle. Et finalement, je trouve franchement que c'est là le moment énorme, important. On prend en charge une responsabilité au-delà de laquelle quand vous avez mis la lettre dans la boîte aux lettres ou vous avez cliqué sur le bouton envoi du mail, ben vous vous dites, bah bon sang, mais t'es complètement dingue d'avoir fait ça. Mais... Puis finalement, qu'est-ce que ça soulage? Ça soulage et on se dit, bah cette fois, c'est à toi de jouer. Et c'est bien ce qui s'est passé dans cette aventure. Voilà ce que je peux dire d'un moment marquant. Il y en a eu d'autres, bien entendu, on pourrait multiplier les exemples, mais je crois que celui-là est tout à fait caractéristique de ce qui m'est arrivé.
Merci beaucoup Guy pour ce partage de moments marquants. Et effectivement, je suis d'accord, le fait de débuter un projet, le fait de le proposer à d'autres, c'est aussi un moment vraiment, vraiment marquant. Et puis, il y a les débuts. Les débuts avec un tout premier concert qui se passe pas forcément comme prévu. N'est-ce pas, Julien Jacob? Julien Jacob, c'est le premier invité de ce podcast et lui aussi a vécu deux concerts qui l'ont bien marqué.
Oui, c'est vrai, il y a toujours un concert marquant quelque part. Alors moi, il y en a deux. Deux concerts marquants. Bon, j'ai eu des expériences de scène avec d'autres artistes aussi, avec Bobby McFerrin, avec Rachita, avec plein d'autres artistes. C'est marquant aussi. Le concert le plus marquant pour moi a été celui qui s'est produit à Las Palmas sur le festival WOMAD. Je suis rentré sur une scène énorme. Et je suis rentré devant 20 000 personnes qui étaient face à moi, qui ne me connaissaient pas, oui. Et qui ont adhéré dès les premières notes de ma musique et dès les premiers mots de ma langue, et qui l'ont suivi et qui l'a chanté avec moi. Ça, c'était le concert le plus marquant, quoi, en fait.
Oui.
Voilà. Le deuxième concert marquant est tout à fait l'inverse. C'est, oh, il y a longtemps. Quand je suis arrivé en France, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'était dans l'Est de la France, en concert, et j'entre sur scène, et il n'y avait que 3 personnes dans le public.
Eh oui.
Voilà, ça c'était aussi marquant, de la façon inverse, que le premier concert dont je vous ai parlé. Il n'y avait que 3 personnes là, c'était aussi marquant, et ces 3 personnes là sont devenues des amis, nous ont suivi ensuite, les musiciens et moi au restaurant, on a passé la soirée ensemble, on a fait notre concert pour ces 3 personnes.
Mais oui, voilà. Magnifique moment aussi, certainement.
Ah oui.
Effectivement, les débuts ne sont pas toujours simples, on l'a tous et toutes connu un jour ou l'autre, quand on fait de la scène. Il paraît que tout se termine en chanson, eh bien, pas cette fois. Cette fois, on va terminer avec un texte, lu par Dominique Contestin, qui fait partie aussi de la danse des mots.
Le chameau et les bâtons flottants, Jean de La Fontaine. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier, ce qui nous paraissait terrible et singulier, s'apprivoise avec notre vue qu'on se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot. Et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin c'est quelque chose et de près ce n'est rien.
Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 7, un épisode inédit. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous ne connaissez pas encore les autres épisodes, n'hésitez pas à aller les écouter, partagez-les, commentez-les, likez-les, notez-les, bref, aidez-nous à faire en sorte que nous puissions faire une deuxième saison aussi chouette que la première. Je vous souhaite de passer une très très belle fin d'année 2021, de très belles fêtes, et puis on se donne rendez-vous en 2022, je l'espère, pour ouvrir de nouvelles portes de coulisses. Allez-y, on referme les coulisses.